Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de course à pied. Toutes les semaines, tu trouves ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour te lancer de nouveaux défis et rester motivé. Yoann Durand, athlète membre de l'équipe de France de marathon, notre maître Yodu est là, salut Yodu.
Toujours là, fidèle au poste, salut Ben, ça va?
Ça va mon pote?
Bah ouais, impeccable.
Je dois t'avouer que...
Quand j'entends ta voix, je vais bien. Alors, je sais pas pourquoi.
Bah j'allais te faire un compliment.
Je sais qu'on
aussi
va passer un bon moment.
Quand je te vois courir, ça me rassure et ça me fait plaisir. Je sais que je vais passer une bonne journée. Je me dis, ah, Durand voilà, est en forme, il revient, tout va bien.
Quand je vois tes séances d'entraînement, je me dis, c'est bon, il écoute.
Voilà, c'est
il
ça.
Il respecte les consignes.
J'écoute tout. Bon, on va arrêter de se brosser dans le sens du poids tous les deux. On va passer à l'épisode du jour. Un athlète polyvalent à l'honneur dans RMC Running cette semaine. On va recevoir Félix Bourg, coureur de cross-country, de 5000, de 10000, de semi, de marathon. On va vous raconter son histoire. La séance sera adaptée à son profil d'ailleurs. Comment déterminer ses allures de course? Quelle allure pour un 5, un 10 ou un semi? On a déjà fait ce type de séance avec Méline Rollin après son marathon à Valence, mais là, on va vraiment parler de toutes les distances. Ça va être passionnant d'écouter les conseils de Yodu. On a également un bon plan matos aujourd'hui, la marque Saucony à l'honneur cette semaine, la marque américaine qui organise une tournée à travers la France. On sera avec Michel Chenu, qui est le directeur marketing. Il viendra nous la présenter, puis on fera gagner une paire du super modèle Endorphin Speed. Je vous rappelle également que si vous aimez RMC Running, vous vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement, sur les réseaux, Insta, Strava notamment, vous laissez des notes et des commentaires. Et Yoann Durand, une nouveauté cette semaine.
Ah.
Alors là, attention, on crée une nouvelle connexion entre vous et Yoann Durand. Voilà, on lance officiellement le 10 mois Yodu. Alors là, je vais tout vous expliquer en fin d'épisode, mais vous pourrez vous adresser directement à Yoann Durand. Même toi, tu n'es pas au courant, et là,
non,
ça me régale.
Non, je sais pas, qu'est-ce que...
Parce que tu sais pas ce qui va te tomber dessus, et ça, c'est excellent.
C'est ça.
Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on part à la rencontre d'un touche-à-tout.
Il est entré de plein pied dans la cour des grands.
Alors moi, je suis né à Bar-le-Duc le 25 mars 1994.
Le Meusien de 23 ans ne cesse de monter en puissance.
Dans la famille de Félix, tout le monde est passionné de sport.
Ce sont ses profs de sport, impressionnés par ses qualités d'endurance, qui ont poussé Félix vers l'athlétisme au lycée.
Bah écoute, le cross, je pense que c'est la discipline la plus complète, on va dire, en ce qui concerne les courses de demi-fond et de fond dans l'athlétisme.
La première année, il était anonyme dans un peloton. L'année d'après, effectivement, il était champion de France. Oui, donc en une année, il était transformé, l'arrivée venait du foot.
Je m'entraîne 8 à 9 fois par semaine.
Et bah moi, je vais plus tourner autour de 100-120 km en course à pied. Et par contre, il y aura tout le temps pratiquement 100 km de vélo par semaine dans la préparation hebdomadaire. Quoi.
T'as gagné Marseille-Cassis, devant quand même Morad Hamdouni.
Moi, je suis fan de Booba.
Et voilà, ça fait du bien des jeunes un peu. Voilà. Mais oh, bah, Booba, c'est intergénérationnel, remarque. Mais bon. Félix Bourg, athlète de haut niveau, coureur de cross de 5, de 10, de semi, de marathon, est en direct avec nous depuis Fréjus. Salut Félix.
Salut, bonjour à tous.
Comment ça va? T'es en forme?
Ouais, super, tout se passe bien, la préparation suit son cours, donc bon. J'ai hâte de pouvoir tester ça sur les prochains cross, quoi.
Eh oui, bien sûr, parce qu'on le disait, t'es polyvalent, là, c'est la période des cross, tu es champion d'Île-de-France, d'ailleurs, on pourra en reparler. Vous vous connaissez bien, Yodu, évidemment, c'est pas forcément la même génération, mais vous êtes potes tous les deux. Hein.
Ouais, c'est ça, on a la chance de se côtoyer lors des rassemblements nationaux, du coup, avec le hors-stade. Et bah voilà, moi, enfin, j'ai grandi aussi en le suivant à travers ses performances sur la piste et maintenant sur marathon, quoi.
Ah, ça fait mal, Yoann, quand on dit j'ai grandi en suivant ses exploits. Aïe, craque, prends ça derrière la tête.
Ah ouais, bam, un petit tac.
Ouais, mais c'est pas fini.
Les Europes de cross, non? En 2015, notre première sélection en commun quand on était espoir
ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est ça, exactement. En France en plus, ouais.
Bon,
ouais,
en 2015, ouais. Donc c'est vrai que ça passe.
Ce qui vous rapproche aussi, c'est que vous avez le même équipementier, d'ailleurs. Hein. ASICS.
Ouais, c'est vrai.
Aussi, ouais.
C'est vrai.
C'est une bonne marque, ça, Yodu?
La meilleure.
Ah, qu'il est bon en com. Bon, Félix, on démarre toujours nos épisodes d'RMC Running par la même question. Pourquoi tu cours, Félix Bourg, alors?
Pourquoi je cours? Bah écoute, parce que déjà c'est mon métier, donc ce serait bête de ne pas m'entraîner. Ouais. Non, déjà à la base c'était une passion et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir pu en faire mon métier. C'est quelque chose que j'adore et je prends vraiment du plaisir à courir au quotidien. Donc non, c'est que du bonheur. Hein.
Et allez, on attaque tout de suite ton CV de coureur.
RMC.
Le CV de coureur.
Bon Félix, rappelle-nous ton âge.
28 ans.
Donc tu as un profil à la Durand, tu viens du foot, tu as démarré à courir, tu as commencé la course à pied quand?
Écoute, j'ai commencé en KD1, enfin j'ai pris ma première licence en KD1, donc avant je courais un petit peu en UNSS avec le collège quoi.
Donc ça fait quoi? Ça fait 16 ans, 16-17 ans?
Ouais, ça fait un peu plus de 10 ans, 10-12 ans quoi.
D'accord. Tu réalises combien de séances par semaine, Félix?
Là actuellement je suis entre 10 et 12, ça dépend, ça varie selon les semaines quoi.
Ok. Ça représente combien de kilomètres en moyenne du coup?
On va dire autour de 130-140 kilomètres par semaine quoi.
Ok. Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier?
Ouais, bah après sur 5000 j'ai fait 13-15, sur 10000 27-51, sur marathon récemment 2h10, donc je pense que c'est un bon début et on va essayer de continuer à descendre tout ça quoi.
C'est un bon CV ça, Johan Durand?
C'est pas mal ouais. Moi celui qui m'impressionne le plus...
Ah oui, c'est lequel?
Je dirais son 27-51 Ken.
Ah oui.
Moins de 28, ça parle. Moins de 28 au 10K, franchement, c'est...
Les gars,
pour... Et après, c'est sûr que 2h10 sur un premier marathon, ça parle aussi. Hein. Honnête.
Pour avoir un ordre d'idée, les gars, moins de 28 au 10K, ça fait quelle allure au kilomètre?
Ça fait 2,48 au kilo.
2,48,
ouais. Ah oui, bah, ça pique. Ok.
2,48, ouais, c'est ça.
Bon, Félix, quelle est la dernière course que tu as disputée?
C'était le 5 km de Monaco là tout récemment ce week-end.
On va en reparler, évidemment. Quelle sera la prochaine?
La prochaine, ce sera les interrégionaux des dimanches et ensuite les championnats de France de cross le 12 mars.
Ta séance d'entraînement préférée?
J'aime bien un peu tout, mais je suis quand même plutôt un pistard à la base, donc je dirais un bon 10x1000 pour se tester avant un 10 000, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais.
Incroyable, un ovni dans RMC Running. Il nous a pas dit la sortie longue et compagnie. Yodu, ça y est, un vrai pistard, pur et dur. Bon,
exact.
Alors attends, on va voir ce que tu vas dire. Quelle est la séance que tu détestes alors?
Je suis pas trop fan des côtes quand même.
Ah d'accord, ok. T'aimes pas les séances de côtes? Durand adore. Hein,
mais... Manque de puissance.
Ouais. Ouais, manque de puissance, on essaye de travailler tout ça là.
Ouais. Grand gabarit, hein, surtout Félix Bourg. On est ravis de t'accueillir cette semaine. 1m84, un coureur polyvalent, vraiment une belle histoire à découvrir. On va revenir d'ailleurs sur ton parcours, mais je voulais juste revenir sur l'actu. C'était ce 5 km à Monaco. Tu fais 6e d'une course très relevée en 13-40, hein, c'est déjà complètement dingue. Et surtout, tu fais 6e derrière l'incroyable Jimmy Gressier, qui a récupéré son record d'Europe, 13 minutes et 12 secondes. Bon, là, il y avait un extraterrestre devant, Félix. Là. C'était complètement fou ce qu'il nous a sorti. Hein.
Ouais, c'était génial. Après, il l'avait annoncé, il le préparait depuis plusieurs mois. Je pense qu'il avait à cœur de le récupérer et de le faire à Monaco. C'était bien parce qu'il y a eu quand même déjà plusieurs records d'Europe et un record du monde sur ce parcours. Mmh. Après, il a tout simplement assumé son statut et son objectif pour aller le récupérer. Et nous, c'est vrai que derrière, on avait des objectifs un peu moins élevés parce que c'est vrai qu'en pleine préparation, que ce soit pour le marathon, pour Richard Ringer, par exemple, l'Allemand, moi, je suis en pleine préparation pour les crosses, donc ça me permettait de me débriter un peu et de prendre du plaisir à recourir là. En plus, il y avait des conditions géniales, donc c'était top. Donc non, c'est vrai qu'on va dire qu'il y avait l'extraterrestre devant et nous, un peu plus loin derrière, quoi.
Eh ouais, il est fort, Jimmy, évidemment, mais concentrons-nous sur toi. C'est vrai qu'on te voit un peu partout, on te voit sur le cross, on te voit sur le 5K. Comment tu as priorisé ta saison? D'habitude, c'est une partie qu'on aborde ensuite, mais j'aimerais savoir comment tu as planifié cette année 2023, parce que comme tu es polyvalent, il faut que tu fasses des choix à un moment, Félix.
Exactement. Écoute, en fait, j'organise un peu mes saisons en fonction des jeux qui vont avoir lieu à Paris en 2024.
Ouais, bien sûr.
Et c'est vrai que, comme tu le disais, j'ai la chance d'être polyvalent et de pouvoir tenter sur marathon et sur 10 000. Donc j'essaye tout simplement de jouer ma carte sur les deux, en sachant qu'aujourd'hui, il y a un nouveau système avec le ranking, à cause duquel, j'ai envie de dire, on est obligé de courir quand même pas mal de courses. Et du coup, il va falloir que je fasse deux gros 10 000 cet été si je veux espérer pouvoir marquer les points nécessaires pour me qualifier, parce que les minima qui sont fixés sont un peu phénoménaux, donc un peu hors... Enfin, je veux dire, il n'y a pratiquement aucun Européen qui sont capables de les faire. Donc, le seul moyen de passer et de se qualifier, c'est par le ranking, quoi.
Un commentaire à Yoann Durand sur les modes de qualification pour Paris 2024.
Bah, c'est n'importe quoi.
Voilà. Je savais que je serais pas déçu. Ouais, non, mais c'est
ouais, ils savent plus quoi inventer pour rendre le truc compliqué, mais c'est incompréhensible.
C'est bizarre.
Quel
intérêt de mettre des chronos aussi bas. Enfin, c'est fou.
Non, mais là, on dit pas, mais par exemple, sur le 10 000, il faut savoir qu'il y a des crosses qui comptent
déjà, ça a aucun sens.
Avec des points, des bonus, des malus. Enfin, c'est une usine à gaz, cette histoire de ranking. C'est très compliqué, personne n'y comprend rien. Et... Alors qu'avant, c'était simple, il y avait des minima et c'était beaucoup, beaucoup plus simple. Ouais.
Bon, Félix, raconte-nous ton histoire. On l'a entendu dans la production sonore signée Geoffrey Charpie. Tu viens du foot, toi aussi, un parcours assez classique finalement. Souvent, les footeux qui ont des qualités d'endurance se retrouvent à pratiquer la course à pied, quoi.
Ouais, exactement. Après, c'est vrai que moi, j'étais en sport-études en plus, donc on faisait vraiment du foot pratiquement tous les jours, avec en plus les matchs le week-end. Donc j'avais quand même une bonne base foncière malgré tout. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment quand même en commençant à prendre ma première licence et à faire des entraînements réguliers en course à pied que j'ai passé un cap. Ça a pris quand même une année complète avant d'aller chercher mon premier titre de champion de France et les premiers championnats du monde en cadet. Donc non, la première année, c'était pas forcément top au niveau des résultats, mais la deuxième, c'est vrai que j'ai assez vite explosé, quoi.
J'ai bossé, hein. Félix Bourg, c'était arrière latéral, supporter d'Arsenal, c'est ça?
Ouais, c'est toujours le cas. Bon, c'est vrai que là, on a une période de disette assez longue, mais bon, je pense
c'est
que
peut-être
pour
l'année ou jamais. Hein. Ouais. C'est clair.
Non.
Bon, mais je te voyais pas. On remarque latéral, ça galope. Ouais, remarque, ça me
ouais, c'est ça, fallait galoper, fallait monter, redescendre, faire la navette tout le temps. Donc, moi, ça faisait un peu des 30-30 hein, finalement.
Ouais, c'est vrai, vu comme ça. Et puis, Félix, tu as grandi dans la Meuse, donc l'idée, c'était de t'échapper à tout prix, peu importe le sport.
Pour le foot ou la course, il fallait.
Ouais, non. Après, non, franchement, on a beau dire, après la course à pied, ça reste un sport assez simple. Hein, on le voit bien, tout le monde va s'entraîner au Kenya alors que tu n'as aucune infrastructure. Après, c'est le message que j'essaye de transmettre aussi aujourd'hui par rapport aux jeunes qui n'ont pas trop d'ambition. C'est vrai, en Meuse, on n'a pas des tonnes d'installations, mais finalement, tu as juste besoin d'une paire de chaussures et de la motivation pour aller courir.
Ouais, c'est sûr. Et alors, ce qui est génial, je trouve, dans ton histoire, et on va se retrouver aussi avec Yodu, parce que Yodu l'a côtoyé aussi. T'avais une idole de jeunesse, la star locale Bob Tari, qui a beaucoup fait pour les jeunes coureurs. C'est ça qu'il faut souligner. Bob, il a été très actif. Déjà, ça a été un exemple sur la piste, sur les différentes compétitions. Mmh. Mais il s'est investi personnellement, localement, pour aider les jeunes comme toi, justement, à pratiquer leur discipline dans les meilleures conditions possibles, quoi.
Ouais, c'est clair. Moi, j'ai eu la chance. Il m'a contacté assez tôt, hein, après mon premier titre, justement, de champion de France en KD2. Il venait d'ouvrir son magasin, du coup, Run by Tari à Metz. Et tout de suite, il a décidé d'accompagner plusieurs jeunes, ou enfin même moins jeunes, hein, mais je veux dire des gens qui étaient un peu connus et reconnus localement en Lorraine, et de les accompagner sous forme d'équipement, etc., et de conseils au quotidien, des petits messages, des encouragements. Mmh. Et c'est vrai que ça motive vraiment quand t'es un jeune et que tu viens de débuter dans l'athlétisme, de voir que t'as un mec de la trempe de Bob Tari quand même qui te suit et qui t'encourage. Donc non, c'est sûr que je pense que ça m'a beaucoup aidé et conforté dans l'idée de continuer dans cette direction, quoi.
C'est fou, tout le monde a en mémoire cet intérieur sport de Bob Tari au Kenya. À chaque fois, on y pense.
C'est vrai qu'au Kenya, il avait été mythique. Ouais.
On avait parlé ensemble, mais c'est vraiment un reportage marquant.
Parce que c'est l'un des premiers, pionniers à être allé là-bas. Parce qu'il faut savoir que quand il y allait, lui, il n'y avait pas les centres comme aujourd'hui, le Ranix ou chez Lorna. C'était vraiment, il allait à la dure, quoi. Ouais. Là, aujourd'hui, tout
avec ses survêtes trop grands.
Mais lui, c'était le premier. Hein.
Avec les survêtes flottants.
Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, rapidement, tu as été détecté, tu as été pris en main par Michel Poitel, qui est ton coach, qui a été ton coach historique et qui t'a vraiment permis de mettre en place une stratégie de progression sur le long terme, quoi. Il a eu un apport inestimable aussi pour toi, Michel, Félix.
Ah oui, complètement. Hein. C'est lui qui m'a vraiment lancé dans le grand bain et c'est lui qui a fait aussi en sorte que je passe les étapes dans les meilleures conditions pour arriver vraiment au top de ma forme aujourd'hui, quoi, à 28, 30 ans. Pour essayer d'aller chercher les performances qui me permettront peut-être un jour de faire les Jeux Olympiques. C'était mon objectif dès le départ et ça l'est toujours. Donc, écoute, j'espère que ça va payer tout simplement. En tout cas, je ne le remercierai jamais assez parce que c'est vrai qu'il m'a vraiment pris en main de la meilleure des façons, quoi.
Toi, tes premiers résultats, c'était plutôt sur le cross d'ailleurs, Félix. C'est là où tu as commencé à briller.
Ouais, exactement. Ouais. En KD2, premier titre de champion de France, c'était à Paray-le-Monial, du coup, en Bourgogne. Et après, ça s'est un peu enchaîné derrière, quoi. J'avais gagné aussi l'été sur la piste le 3000 mètres. Ensuite, en junior, pareil, première sélection, etc., quoi.
Yodu, tu te reconnais un peu dans le parcours de Félix ?
Un peu, ouais, parce que pareil, hein, je viens du foot et pareil, avec mon premier entraîneur qui me récupère quand je sors du foot, avec une logique d'avoir un athlète et de le faire progresser et de faire en sorte qu'il soit bon en senior et de pas tout de suite me griller en m'entraînant 12 fois par semaine dès qu'à des juniors, tu vois, ça c'est la difficulté qu'ont peut-être certains entraîneurs qui veulent tout de suite briller, parce que quand t'as une pépite dans les mains, bah t'as qu'une envie, c'est de la polir et de la montrer et de dire regardez ce que j'ai fait. Et là non, c'était pareil, c'était une logique de progression pour que je sois bon sur le à 27, 28, 30 ans. Et regarde, j'ai encore 37 ans et je suis encore ultra motivé parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a bien accompagné et qui m'a permis de pas me griller les étapes et de progresser. Après, voilà, comme Félix, hein, le cross, comme quoi, on dit souvent le cross, ouais, c'est pour les petits, les mecs puissants et tout. Et Félix, c'est tout le contraire, c'est un grand tout maigre. Et pourtant, il est fort en cross, donc là-dessus, il n'y a pas de vérité aussi. Hein,
ce que je trouve génial avec vous, c'est que vous conservez cette passion du cross. Malgré tous vos exploits sur les différentes disciplines, vous gardez cet amour comme ça du combat homme à homme dont on nous parle souvent,
Johan.
C'est là
où tu as commencé, quoi.
Ouais, il y a toujours cette relation particulière avec cette discipline, Félix.
Bah après le cross pour moi c'est l'essence même de notre sport en fait, je veux dire à la base t'as pas de notion vraiment de chrono, c'est vraiment essayer de se le dépassement de soi, essayer de se surpasser pour aller dépasser les mecs qui sont devant et de garder son avance si t'as voulu t'échapper et de se faire mal justement pour essayer de d'aller chercher la meilleure place possible. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que t'oublies un peu toutes les notions de chrono etc et tu te concentres vraiment sur toi-même et sur ton effort, sur ton souffle etc quoi. Donc si t'es bon en cross, normalement, forcément, tu vas être plus ou moins bon quand même sur la piste et sur la route, quoi. Normalement.
Si vous êtes en train de courir, faites une pause, mettez pause sur RMC Running, allez sur le profil Strava de Félix et regardez le final de sa course d'Île-de-France, la remportée. Le sprint comme ça sur un cross, il est parti à fond la caisse. Mais c'est là où on se rend compte de la difficulté de l'effort. Elle est folle cette vidéo, je trouve. Elle dure 10 secondes. Là, on sent que.
Malheureusement, là, il y a les championnats du monde de cross qui ont lieu le week-end prochain et la Fédération française d'athlétisme n'a pas souhaité envoyer d'équipe aux championnats du monde de cross. Que ce soit dans les juniors, cross long, cross court, et ça c'est un peu dommageable parce que justement.
Un avis, Johan, sur la stratégie fédérale ?
Là c'est une nouvelle fois, c'est incompréhensible. Le cross, on nous parle que c'est l'école de la vie, que c'est bien pour les jeunes et tout, et on permet pas aux élites de performer. Quand je vois les reportages sur les cyclocross en Belgique et les championnats du monde, le monde que ça draine et l'ambiance que ça a, en athlé on pourrait faire la même chose avec le cross.
C'est une question de culture, je pense aussi, Johan.
C'est ça, une question de culture. On l'avait dans les années 70,
Mais c'est vrai.
C'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Alors, c'est une bonne transition, ça, Félix, parce que t'es quand même issu d'une énorme génération. On a parlé de Jimmy Gressier pour démarrer cet épisode. Vous êtes champion d'Europe de cross par équipe. Il y a un paquet de bons coureurs dans tes disciplines, quoi. Là, vous tirez bien la bourre entre vous.
C'est ça nous tire un peu tous vers le haut, en fait, parce que quand quelqu'un réalise une perf, toi, derrière, t'as envie de prendre un peu exemple sur lui et voire même de le dépasser. Donc finalement, t'es toujours obligé de te surpasser à l'entraînement au quotidien pour aller chercher toujours des meilleurs chronos et réaliser des meilleurs chronos aussi en compétition derrière. Donc c'est bien parce qu'il y a aussi une bonne entente entre nous tous. Je pense que dans le demi-fond et dans l'athlé en général, il y a toujours quand même un bon état d'esprit. Hein, mais non, c'est cool parce que ça nous encourage vraiment, comme je dis, au quotidien de s'entraîner encore plus et puis de garder aussi la notion de plaisir aussi quand même quelque part. Parce que faut pas non plus tomber dans l'excès. Mais en tout cas, y a aussi tous les nouveaux réseaux sociaux. Hein, tu parlais de Strava. On regarde toujours à droite, à gauche ce que les uns, ce que les autres font. Ça peut donner des idées. mais ça peut donner des idées, mais je pense qu'il faut aussi faire attention parce qu'on n'a pas tous les mêmes profils. Je veux dire, un mec comme Navarro, comme mes 10 frères qui vont faire des 250 bornes par semaine, on n'est pas tous faits pour ça. Hein, donc, quelque part, il faut garder quand même, son chemin d'entraînement et pas essayer de tomber trop dans l'excès, quoi.
Moi, ce qui me fait marrer avec vous, les pros, c'est que parfois, c'est full transparent, c'est-à-dire qu'on voit toutes les séances et tout. Parfois, certains disparaissent. D'ailleurs, on l'a reçu, il est très sympa, mais je pense à Julien Wanders qui mettait tout, qui était vraiment transparent sur ses entraînements au Kenya et tout, et qui, là, depuis 6 mois, a disparu. Je pense qu'il n'a plus envie de se prendre la tête avec ça.
Des fois, tu prends des... c'est le problématique des réseaux sociaux, c'est que comme tu montes tout, t'as un retour de bâton, hein.
Revenons sur ton histoire, Félix. Je reviens à 2021, peut-être ce record sur semi à Valence. Valence, c'est une ville que t'aimes bien, qui te réussit bien, hein, d'ailleurs. 1h32, Là, c'est magnifique. Quelle performance. Et surtout, on va parler de l'enchaînement après, parce que tu nous as enchaîné sur une victoire sur la Marseille-Cassis. Mais parlons déjà de ce semi. C'était quoi ton objectif au départ, Félix ?
Bah écoute, c'était exactement ça, 1h30, on avait décidé de partir là-dessus. Donc,
il manque deux secondes.
Ouais, il y a deux secondes de trop, malheureusement. Ouais. Non, mais Valence, après, c'est une ville, voilà, normalement, c'était bien préparé, c'est tout plat.
Ah, c'est
en général, les conditions sont parfaites, t'as des lièvres dans chaque groupe, donc si t'arrives prêt et que t'as bien préparé ton affaire, normalement, tu réalises le chrono que tu vises, quoi. C'est un peu l'avantage avec cette ville et avec les organisateurs qui font tout pour nous mettre dans la meilleure condition. Donc, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, beaucoup de marathoniens battent leur record et veulent courir là-bas. Et je pense que c'est la même chose sur semi, sur 10 km. On dit que c'est la ville du running et c'est pas pour rien, quoi.
Ouais, c'est magnifique. Les images, même à la télé, sont sublimes. Hein. Ces couleurs comme ça.
Ouais, en plus, c'est vraiment une belle ville, en plus, ça, c'est vrai.
Ce tapis bleu ciel, là, c'est sublime. Ça donne
toujours
envie
la
à chaque...
même arrivée, là.
Ah ouais, mais ça donne envie à tout le monde d'y aller, hein. Franchement. C'est...
Ouais, t'as envie d'avoir ta photo quand même à l'arrivée, ouais, sur le tapis bleu.
et la période est bonne, en plus. Et puis, je le disais, la semaine d'après, peut-être d'ailleurs l'une des victoires référentes de ta carrière, victoire sur la Marseille-Cassis, qui est une course très, très prestigieuse, 20 km. Tu gagnes en 1h55 devant un certain Morad Hamdouni et devant un certain Nicolas Navarro. Ça va, c'était pas mal comme exploit, ça.
Ouais, et puis ce qui est marrant, c'est que justement, le jour où j'ai fait mon semi à Valencia, du coup, c'était pile poil une semaine avant Marseille-Cassis. Et après mon footing de récup, j'arrive à l'hôtel, je suis allongé dans le canapé en PLS. Et là, il y a mon manager qui vient, du coup, Riyad Ouled, qui me dit « Ah, Félix, ce serait bien que tu cours à Marseille-Cassis dimanche. » Et là, je lui réponds « Ah non, c'est hors de question, là, je suis complètement KO, impossible. » Et après, il me dit, t'es sûr et tout, parce qu'il n'y a que des Français cette année, c'est l'occasion et tout de te montrer, de te mettre en avant. Et je lui dis, bah écoute, je te redirai mercredi. Et finalement, bah, le lundi passe, je fais quelques 30-30, j'ai les jambes éclatées. Le mardi, ça va un petit peu mieux. Et puis le mercredi, je fais une petite séance de seuil. Et puis il dit, oh, bah ça va finalement, je suis pas trop mal. Du coup, je le rappelle, je lui dis, bon, bah ok, on va à Marseille-Cassis. Et puis bah finalement, j'étais encore mieux en fait le jour de Marseille-Cassis, enfin au niveau des sensations.
Ouais.
Je pense que le jour-là, après à l'arrivée, je pouvais faire encore 10 bornes. Quoi. C'était... Il y a des moments comme ça où tu ne comprends pas trop, en fait.
Tu étais peut-être en plein pic de forme, et comme tu es arrivé sans pression, bah, tu étais totalement relâché peut-être aussi.
Ouais, c'est ça, mais c'est quand même bizarre, parce qu'une semaine après un semi, normalement...
Oui, ça, c'est sûr.
Bon, après, c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles chaussures, on peut un peu tout enchaîner. C'est un peu n'importe quoi, mais... Enfin, je veux dire, tu reviens 3-4 ans en arrière, c'était hors de question de faire deux semis en une semaine, quoi.
Surtout Marseille-Cassis, avec les descentes qu'il y a musculairement.
Marseille-Cassis, en plus, c'est exigeant.
Toi, tu me dis que t'aimes pas les côtes et tu gagnes Marseille-Cassis, donc c'est pas bizarre, non ?
Non, mais j'aime bien les efforts longs, pas trop... Tu vois, parce que quand tu fais une séance de côte, quand même, c'est plutôt des sprints, des répétitions à haute intensité. Mmh. Alors que là, tu es sur un effort quand même assez lisse, quoi. Tu essayes de plus courir à la pulsation, on va dire, et de gérer ton effort jusqu'au sommet, quoi. Puis après, derrière, bon, tu sais que tu as la descente, donc tu te dis quelque part que la course, elle s'arrête en haut, quoi.
C'est ça. L'événement de l'an dernier, c'était évidemment les championnats d'Europe. Événement parce que tu as eu la chance de les partager avec Yoann Durand, évidemment.
Oui.
Voilà. Mais toi, tu avais décidé, donc tu t'es aligné sur 5000. Victoire d'un certain Jacob Ingebrigtsen, on ne sait pas vraiment qui c'est ce mec.
Ouais, j'ai jamais entendu parler.
Évidemment, impressionnant, c'est la comète de la discipline. Toi, tu avais un peu de regret, je crois, parce que tu t'es retrouvé asphyxié, tu n'as jamais vraiment trouvé ton bon rythme. Tu n'as pas passé un très bon moment ce jour-là sur la piste, je crois, Félix.
Non, après, je pense. Bah, franchement, la prépa, c'était super bien passé. J'étais parti en stage dans le Jura avec Jan Schrub, qui a fait 3e du coup sur le 10 000.
Qui est très sympa d'ailleurs.
Et tous les deux, on a fait vraiment une super prépa, donc au début, j'avais du mal à comprendre. Et c'est vrai qu'on est quand même plusieurs athlètes. Bon, après, on était une centaine dans la délégation, on était quand même dans des milieux assez... dans des salles à faire des réunions assez confinées. Donc je pense que c'est possible que certains aient chopé des trucs, et je pense que j'en fais partie. Après, on ne saura jamais, hein, je veux dire. Moi, ils m'ont testé après la course. Enfin, le médecin de la Fédé m'a testé, mais bon... Il m'a mis le truc juste au début du nez pendant une seconde, donc je sais pas si c'était vraiment valable, quoi.
D'accord.
Non, puis après, bon, voilà, j'étais en vacances, je suis passé à autre chose, mais...
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que je pense qu'on est plusieurs à être passés à côté, avoir chopé un petit truc pendant ce rassemblement, quoi.
Ouais.
Mais bon, voilà, après, c'est comme ça, hein, il faut continuer à avancer, il faut continuer à travailler, et puis bon, ça fait quand même de l'expérience pour la suite, donc faut pas cracher dessus, quoi.
Bon, après, comme t'es un naturel optimiste, tu t'es reconcentré, et puis tu te dis, vas-y, je vais me lancer sur marathon. C'est une envie que t'avais depuis longtemps, d'ailleurs, depuis nombreux mois, et voire de nombreuses années, et tu t'es dit, allez, c'est ma ville, je vais me lancer à Valence, donc c'était en décembre dernier. Premier marathon, on le disait avec Yodu, 2h10, 46. Pam, voilà, une course régulière en plus, tu t'es régalé quoi, Félix.
Ouais, je me suis régalé jusqu'au 38e, après c'était un peu plus dur quand même.
Faut bien que ça pique à un moment quand même.
Non, après c'est vrai que comme je disais, moi je suis plutôt autour des 130-140 km par semaine, donc je voulais pas pour le premier marathon tomber dans des 200 km par semaine et finalement pas les digérer et arriver cramé à Valencia.
Ah, t'es resté sur ce volume kilométrique alors?
Non, je suis monté plus quand même, mais j'ai fait quelques semaines à 180, mais j'ai pas pu monter plus haut parce que mon corps, ça suivait pas, quoi, ou je me blessais, ou alors j'arrivais pas à récupérer. Mm-hmm. Donc voilà, on a essayé de jouer là-dessus, de travailler un peu différemment, de mettre un peu plus d'intensité parfois sur la piste. Et puis finalement, ça s'est plutôt pas mal passé pendant la course, parce que ça a tenu quand même pendant 38 bornes, donc c'est pas anodin. Et j'ai réussi à faire quand même des grosses sorties longues assez costauds, donc... Je pense que pour les prochaines prépas, c'est de bon augure pour essayer d'aller chercher maintenant sous les 2h10. Quoi.
Yodu, c'est la clé chez vous, chez les athlètes de très haut niveau sur marathon, le volume à un moment, être capable de digérer comme ça des semaines à rallonge. Vous avez tous des méthodes d'entraînement différentes, mais il y a un minimum à réaliser quand même pour être performant et assez solide pour endurer 42 km.
Ouais, il y a un minimum à réaliser. Après, chaque profil est différent. On le voit, Félix a cité l'exemple de Mehdi Frère ou Duncan Peria, qui sont des athlètes qui bornent beaucoup, ou Nicolas Navarro, qui sont des athlètes qui passent régulièrement les 200 km et qui se blessent très peu. Et après, il y a des profils un peu plus comme Félix, où il sait très bien, il connaît son corps, et il sait qu'il ne peut plus mettre autant de volume que certains. Moi c'est pareil, hein. Moi sur Paris je suis monté à 160, j'ai peut-être fait une semaine à 180, mais sinon c'était du 150.
C'est vrai, toi c'est quoi
160.
Tes grosses semaines de volume sur une prépa marathon?
C'est ça, 150,
t'es jamais à
160. 200.
Ouais, t'es jamais.
Et jamais je suis monté à 200 parce que je sais que je tiendrai peut-être pas la distance et que j'ai pas besoin de autant parce que peut-être que j'ai aussi un bagage derrière moi, j'ai 20 ans de course, 20 ans de plusieurs marathons, j'ai du gros volume derrière moi, j'avais déjà un gros coffre. Donc faut quand même, après voilà, c'est ça, c'est garder, habituer son corps à courir longtemps mais sans aller jusqu'à la blessure.
Bah oui.
C'est le dilemme.
Ouais, exactement.
Ouais, après c'est vrai que Johan et moi je pense qu'on a aussi la chance d'avoir couru très vite sur 5000, donc on a aussi une base de vitesse quand même que les autres n'ont pas.
Bah oui.
Donc voilà, après chacun a ses qualités quoi. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre la borne et puis la qualité derrière pour faire la prépa parfaite et aller chercher la meilleure perf possible quoi.
C'est-à-dire Félix que sur ton allure marathon t'étais plutôt à l'aise en fait?
Ouais, franchement, j'étais plutôt à l'aise, hein. Ça s'est super bien passé. Après, j'ai fait des erreurs au niveau des ravitaillements. Moi, ça me servira pour les prochains marathons. Mais sinon, je pense qu'il y a pas grand-chose à changer en soi sur la prépa en elle-même, quoi.
C'est une distance qui t'a plu? Tu t'y vois à moyen terme quand même? Peut-être pas pour l'échéance de Paris, mais pour les échéances suivantes?
Écoute, on verra déjà comment se passe le prochain marathon, mais c'est vrai que la prépa, j'ai quand même pas trop pris de plaisir parce que, comme je disais, j'avais tout le temps mal quelque part tout au long de la prépa. Alors ça pouvait être au genou gauche, après c'était...
C'est un sport de sadomaso, voilà, ça, c'est sûr. Hein. Faut aimer souffrir.
Ah, t'as tout le temps mal quelque part. Ah, quoi,
c'est mal.
Et du coup, c'est vrai que ça peut... Enfin, moi, ça m'a un peu dégoûté par rapport à ça.
Ouais.
Et j'avais pas envie de tout de suite de repartir sur une prépa marathon, quoi. Donc on a fait le choix, de refaire de la vitesse un peu sur 10 000. Après, de refaire un peu de semi pour ensuite réenquiller sur un marathon derrière, quoi.
Je me permets de parler à moyen terme parce qu'il me semble avoir vu que toi, tu visais plutôt le 10 000 pour Paris 2024, hein, Félix, du coup. C'est vraiment ton objectif. Hein.
Bah écoute, de toute façon, je recours à Valencia en décembre prochain, donc on verra ce que ça donne. Hein, mais...
Ah, le marathon, t'as déjà programmé un marathon, planifié un marathon pour la fin d'année, quoi.
Ouais, du coup, je refais exactement le même parce que comme ça, j'ai déjà mes repères. En plus, ça m'a plu, l'ambiance était bonne. Enfin, tout était parfait, même les conditions, donc je vois pas la... Je préfère recourir le même, en fait, que de retenter un autre et de repartir dans une nouvelle aventure, quoi.
Non, mais bien sûr, t'as raison. Mais l'objectif 10 000, c'est ta priorité dans ta tête, quand même?
Non, après, franchement, je vais essayer les deux.
Okay.
Je vais essayer les deux. Après, D'accord. Le 10 000, j'aurai encore l'été prochain pour le faire, alors que le marathon, c'est différent. À partir du 30 janvier, il y a déjà une liste de 64 noms qui vont sortir sur les 80. Donc théoriquement, si t'as pas fait les minima à Valencia, derrière, t'as peu de chance quand même de faire les jeux sur marathon, quoi.
Ouais, bah je comprends. Écoute, de beaux objectifs pour toi, deux possibilités en plus, donc on te souhaite pas mal de réussite. Méfie-toi parce que Durand revient en forme, donc sur marathon, les places seront chères.
Bah écoute, c'est tout le mal que je lui souhaite, hein, je veux dire.
Évidemment.
Il y a que trois places dans tous les cas, mais il y en a beaucoup qui ont le potentiel pour le faire. Hein. Johan, il a couru 2h09-20 à Paris, donc je pense qu'il peut aller beaucoup plus vite. Sur un marathon plus roulant, s'il a prévu d'en faire un, mais enfin pourquoi pas même à Paris d'ailleurs. Et après, bah voilà, ce sera les trois meilleurs qui partiront dans tous les cas.
Et voilà, c'est au moins, c'est, vous êtes tous sur la ligne de départ et c'est les meilleurs iront, donc on vous souhaite de la réussite à tous, même si nous, on a une petite affection particulière pour notre coach Yodu, évidemment. Allez, on passe à la séance.
RMC,
la séance.
Alors, c'est un sujet déjà traité, mais de manière spécifique, il y a quelques semaines, je le disais avec Méline Rollin, la détermination des allures, maître Yodu. On l'a dit, Félix est un athlète polyvalent du cross au marathon, il est passé également par le 5, le 10, le semi. Comment savoir quelle allure adopter ? Et première question que j'ai envie de te poser, Johan, est-ce que tu crois aux différentes lois de calcul ? Est-ce que tu les appliques ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que ça marche pour tout le monde ? Comment tu vois ça, toi ?
Bah, l'avantage de la course à pied, quand même, ouais, comme tu dis, c'est que c'est un sport chronométré, donc il n'y a pas des certitudes mathématiques, mais tu as des façons de travailler, des logiciels ou même des tests qui te permettent, de par des chronos, de savoir potentiellement ce que tu vaux sur un 5, un 10, un semi ou un marathon. Donc effectivement, vu que c'est un sport chronométré, c'est possible de se servir de pour pouvoir déterminer son allure. La première des choses, c'est la VMA, hein, comme je le dis souvent. Ah oui. La VMA, c'est votre carte d'identité du coureur. C'est elle qui va vous dire, bah, tiens, toi, tu as 18 de VMA. Et bien, à 18 de VMA, normalement, on vaut tant sur un 10, un semi, un marathon.
Et voilà. Ça veut dire qu'avec un test VMA en bonne et due forme, on a des repères pour se fixer des objectifs d'allure sur les différentes distances.
Voilà. Les tests de VMA, donc soit il y a les tests... On en avait parlé avec Olivier Gaillard, mais il y a les tests de Luc Léger, c'est on augmente de 1 km/h toutes les 2 minutes. Le Vameval où on augmente de 0,5 toutes les 1 minute. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut un stade, une bande son, des plots, c'est pas facile à mettre en place. Il faut être au sein général, je pense, d'un club pour pouvoir déterminer ce truc-là. Le plus simple, c'est quand même, ça reste quand même le Cooper de courir 12 minutes à fond ou le demi-Cooper où c'est 6 minutes à fond. Donc voilà, là c'est pareil, hein, vous avez des modes de calcul après sur Internet, hein, mais faut faire attention à ne pas partir trop vite, à avoir une allure assez constante sur les 12 minutes d'effort pour pouvoir après prédire votre course par rapport à votre VMA. Par exemple, on sait qu'un 5 km se court aux alentours de 90 à 85% de votre VMA. Mais... un 10 km va se courir à 85%, presque 90% si vous avez un profil endurant. De votre VMA. Un semi-marathon, ça va être plus à 80 et 85% si vous avez toujours ce même profil de coureur un peu entraîné et endurant. Mmh. Et un marathon, généralement, c'est entre 75 et 80%. Quoi. Mais... après, ça dépend vraiment de votre VMA. Plus vous avez une VMA basse, plus vous êtes débutant et plus les pourcentages sont abaissés. Ouais.
Voilà. Yodu, vous êtes des athlètes pro avec Félix, donc vous savez, vous êtes réglé comme des Formule 1. Quoi. Vous savez à peu près exactement à quelle allure, à la seconde près, vous pouvez courir sur telle ou telle distance. C'est un peu différent quand même, je trouve, chez un amateur. Enfin, moi, je le vois par exemple. J'ai peut-être plus de facilité à avoir des bons chronos sur une course type semi que sur un 10. L'effort est différent quand même, tu vois ce que je veux dire ?
Non, mais l'effort est différent, c'est ça. Ça, c'est théoriquement, c'est sur le papier. Mais voilà, après, il y a ça. Tout l'entraînement qu'il faut mettre en place. Par exemple, bah, quelqu'un qui débute, qui a une VMA, je ne sais pas moi, à 15 km/h, eh ben, s'il vient pas, s'il n'a jamais fait de sport d'endurance, s'il vient du sprint ou du saut en hauteur et qu'il se met à courir, eh ben, lui, il sera plutôt sur des pourcentages bas, quoi. Par rapport à quelqu'un qui vient du foot, qui avait l'habitude de courir pendant une heure et demie après un ballon et qui, lui, va avoir un profil endurant et qui a déjà connu pas mal d'entraînement. Ça dépend vraiment de l'entraînement après qu'on met autour de ça. Ouais.
Mmh. Félix, toi, quand tu prépares des objectifs, un 5000, un 10000 ou un semi, tu sais exactement à peu près exactement l'allure que tu vas adopter ou ça peut varier en fonction de la prépa, la façon dont ça se passe, etc.
Moi, je suis assez d'accord avec Johan par rapport à la VMA. Je pense que c'est un super outil de travail justement quand on n'a pas trop de repères au début. Bon, après, c'est pareil, la VMA, elle varie quand même un petit peu selon ton état de forme.
Ouais.
Mais ouais, pour nous, c'est aussi un outil qu'on utilise, je pense, au quotidien. Et après, bah, voilà, tu vas avoir des séances clés pendant la prépa qui vont faire que ça va te conforter dans ton idée de départ. Mais ouais, en tout cas, je pense que c'est un super outil un peu pour tout le monde, hein, universel, donc il faut l'utiliser, quoi.
Vous croyez également aux séances clés qui sont connues, notamment pour déterminer une allure marathon en fin de prépa, le 10x800, pour le semi plutôt le 15x400, ou le 15x200 pour le 10 000, tout ça marche bien, Yodu, ouais.
Ouais, ça marche pour les coureurs. Enfin, ça marche. Moi, je l'ai jamais vraiment testé.
Ouais.
Mais parce que moi, j'ai mes repères par rapport à mes séances perso de, ouais, de 20 ans d'expérience. Mais pour quelqu'un qui démarre, un 10 x 800, comme je l'avais déjà expliqué dans un podcast, c'est Bartiasso, un entraîneur renommé et tout ça, ancien coureur, qui avait fait cette séance. Donc, par exemple, vous faites 10 x 800 récup temps d'effort. Si vous faites 10 x 800 en 2 minutes 40 de moyenne, et bien votre temps au marathon va être de 2h40.
Ouais.
Par exemple, Félix, s'il avait fait 10 x 800 3 semaines avant son marathon, il aurait tourné ses 800 en 2h10 et son temps au marathon, c'était 2h10. Donc ça peut être intéressant. Et c'est pareil pour calculer un temps sur semi. On va avoir une séance de 15 x 400 mètres. C'est pareil, c'est la même idée. C'est le temps d'effort, la récup sur le temps d'effort. Et si vous tournez vos 400 en 1h20, bah vous faites 1h20 au semi.
Donc Eliud, il tourne les 10 x 800 en 1h59, du coup. Voilà.
Bah, ouais, potentiellement, il doit faire ça, ouais.
Voilà,
sur
droit.
Le papier.
Ouais.
Mais il lui faut une voiture devant lui.
Ouais, non, ça nous étonnerait pas. Ouais, c'est ça. Allez, merci Félix, et tout de suite, on passe au bon plan matos.
RMC,
le bon plan matos.
Ah, mon petit Yodu, on va parler d'une belle initiative de la marque Soconi, donc cette semaine, marque américaine, qui organise une tournée à travers la France. On va en parler avec Michel Chenny, qui est directeur marketing et qui vient justement nous en parler. Bonjour Michel.
Bonjour tout le monde, bonjour Benoît.
Bon Michel, est-ce que le van est prêt? Parce que tout ça, ça va se dérouler en van. Est-ce que c'est bon? Il est stické? Tout est prêt? Vous êtes prêt à partir?
Tout est prêt, notre van est arrivé il y a peu de quelques heures à Paris et on est prêt à amorcer, à débuter cette belle tournée à partir de la semaine prochaine, à partir du 21 février.
Qui conduit le van? C'est ça la question.
Les équipes Soconi. En fait, c'est vraiment une activation propre de la marque. On fait vraiment tout en direct, on fait tout nous-mêmes. Et c'est aussi justement un des piliers fondateurs de la marque et surtout en lien avec cette activation qui est de se dire qu'on veut vraiment aller nous-mêmes à la rencontre des amoureux de sport et surtout de running. Donc c'est la raison pour laquelle on leur donne rendez-vous à travers cette tournée.
Bah, Michel, entrons dans les détails. Donc, il y aura 48 étapes à travers la France. Et le but, je rappelle, donc, c'est de permettre aux fans de course à pied de venir tester les modèles emblématiques qui marchent très bien. L'Endorphine Elite, là, on est sur de la chaussure top niveau. La Pro 3, la Shift, vraiment des chaussures destinées à tous. Comment on s'inscrit? Comment on peut se dire, tiens, le Van Soconi va passer près de chez moi, j'ai envie de participer?
Alors, on va mettre, si tu es d'accord, dans le lien de l'épisode, le lien de la landing page, la page sur laquelle, en fait, tout le monde, tous les auditeurs, auditrices auront toutes les informations nécessaires pour participer à cette tournée.
C'est pas sur inscription, c'est-à-dire, je vois ça, je peux venir.
Exactement, c'est vraiment ouvert à tout le monde, pas besoin de s'inscrire au préalable, et on indiquera directement les lieux de rendez-vous et les créneaux de temps de présence directement sur la page dédiée.
Alors, je précise que par étape, ça permet à 50 personnes de venir tester les modèles. Hein, c'est bien ça, Michel. Test accessible pendant 3 heures. Et bah, je peux détailler peut-être parce que la tournée aura démarré au moment où l'épisode va sortir. Donc, ça démarre le 21 février. Vous allez passer par Quetigny, Cernay. Dans la semaine du 27, vous irez à Aubière, à Périgueux, à La Rochelle, à Bordeaux. On sera près de chez Durand, là. Bordeaux,
ouais.
Pau, Anglette, là, ça sera dans ton coin. Voilà, c'est ça l'idée, en fait, Michel. C'est que vous allez traverser un peu toute la France. C'est du 21 février au 19 avril, hein, c'est ça?
Exactement, c'est ça. Une cinquantaine de dates à travers la France. On est vraiment à proximité de certains de nos revendeurs sélectionnés. On met en place cette activation en partenariat avec eux. Et comme tu l'as dit au programme, on proposera à chacun, à chacune de tester les 4 modèles de chaussures de la collection Endorphine, qui est vraiment notre collection haute performance chez Soconi.
Ouais.
Ça va de la Shift 3 jusqu'à la Elite, le nouveau produit qui sortira le 21 février. Sur place, les gens pourront également échanger avec nos experts pour bénéficier de conseils. Il y aura une animation photo booth où les gens pourront repartir avec une photo personnalisée. On va mettre en place un jeu concours pour que les personnes puissent tenter de remporter, de gagner un produit. Et il y a toujours ce côté très festif, échange communautaire. À la fin, post-run, on proposera gratuitement une collation et d'échanger avec tout le groupe de testeurs.
Parce que vous ferez ça auprès de revendeurs, hein, donc dans les différentes villes. Ça sera plus facile de déterminer un lieu physique comme ça. Évidemment, vous serez très actifs sur les réseaux sociaux. On parle de modèle élite, mais c'est accessible à tous. Il n'y a pas que de la carbone, par exemple, Michel.
Non,
si on veut venir, voilà, justement, c'est vraiment adapté à tout type de coureurs.
Tout à fait. On a une Shift 3 qui est un modèle sans plaque. On a de la Speed 3 qui est notre modèle à plaque nylon. Et on a de la Pro 3 et de la Endorphin Elite qui sont nos chaussures en plaque de fibre de carbone.
Alors moi, j'ai aucun lien avec vous. Hein. J'en tire aucun bénéfice, mais je le précise parce que c'est pour la communauté RMC Running. J'ai fait un fond de préparation avec tous les footings avec une chaussure Endorphin Speed et c'est vraiment une top chaussure. Hein. Je vous félicite parce que c'est vraiment la chaussure très adaptée. Vous disiez, il y a une plaque, mais c'est pas du carbone, donc on peut faire du footing de récupération avec. Elle est très légère, elles sont très sympas. C'est vraiment de la très bonne chaussure. Yodu, je sais que tu connais pas forcément cette marque, mais c'est top niveau. Hein. Franchement, c'est vraiment de beaux produits. Hein. Et d'ailleurs, c'est un des modèles qui marche le mieux, je crois, Michel. Hein.
Merci déjà dans un premier temps pour le retour.
C'est sincère, hein, je le fais pas systématiquement, je le fais quand j'ai eu la chance de tester le produit, mais là, je le pense vraiment, donc je vous le dis. Voilà.
Merci. Effectivement, on est une marque de running qui a été fondée en 1898, et du coup, cette année, on va fêter nos 125 ans d'innovation. Et du coup, nous, on propose des produits qui sont à la fois performants, efficaces, agréables à porter, peu importe votre pratique, que vous ayez une pratique sur route ou sur trail. Et effectivement, cette gamme, la collection Endorphin, qui est vraiment notre gamme haute performance, a eu de très bons retours depuis qu'on l'a lancé en juin dernier, où on a lancé les nouveaux produits, que ce soit la Pro 3 ou la Speed 3. Donc, ouais, c'est toujours gratifiant que l'accueil du public soit positif.
C'est assez rare de voir une marque comme ça aller au contact des clients. C'est la première fois que vous faites ce type d'opération ?
Non, on réitère chaque année ce type d'activation. Si tu veux, en fait, chez Saucony, j'ai envie de dire qu'on nous prenons le soin de créer une marque. Par définition, la valeur marque, c'est d'être proche des gens. Mmh. Et nous, en tout cas, ce qu'on veut vraiment, c'est être proche des gens, leur parler, pouvoir échanger avec eux, leur faire tester, leur faire essayer nos produits. Et donc, la proximité avec les communautés running, c'est un point qui est vraiment important pour nous. C'est un de nos piliers fondateurs. Donc, l'an dernier, on a aussi mis en place, sur le mois d'avril, une tournée à travers la France pour le lancement d'un modèle assez phare, assez iconique chez nous, qui est la Ride 15. On avait un pop-up à Paris en juin dernier pour le lancement de l'Endorphin Pro 3 et de la Speed 3. Et cette année, voilà, c'est l'une de nos premières activations phares sur le premier semestre 2023, cette première tournée à travers la France.
Là, on parle de tests, de gamme de produits de qualité. Est-ce que tu as un panel de prix à me donner par rapport aux différents modèles ?
Alors, l'Endorphin Elite, c'est le produit donc, qui sortira le 21 février. Pardon. Ouais. On est sur un prix à 300 euros.
C'est de la chaussure haut de gamme comme chez les autres marques
Exactement. Voilà. On est vraiment sur le haut de gamme. Une Pro 3, elle est à 250 euros. Une Speed 3, elle est à 180 euros. Et une Shift 3, à 160 euros.
Ouais, y en a pour tous les budgets, quoi. Voilà.
On est dans la moyenne, effectivement.
Ouais. Et juste un mot également sur la durée de vie de vos chaussures. Là aussi, ça dépend du modèle. Ça dépend de la semelle. Comment ça se passe ?
J'ai envie de dire que ça dépend également et de
l'usage.
Ouais, effectivement, ouais. L'utilisation. Nous, aujourd'hui, on a... Alors, la Endorphin Elite... Il y a un point qui est important, je pense, à préciser, c'est qu'elle a nécessité 4 années de recherche et développement qui ont été nécessaires pour créer cette chaussure. Elle a été faite en collaboration avec nos athlètes élites. Aujourd'hui, on a par exemple des Speed 3 qui ont une durée de vie de 800 km, par exemple.
Ouais. L'Endorphin Elite, tu vois ça, c'est perçu comme une chaussure compétition, quoi. C'est un truc...
Exactement. En fait, si tu veux, je pense qu'on peut aller jusqu'à 600 km, encore une fois, en fonction de l'utilisation, en sachant qu'en termes de spécificité produit, c'est une chaussure qui vient intégrer une nouvelle super mousse qui va vous offrir plus de rebond pour obtenir davantage de vitesse. Il y a une toute nouvelle plaque de carbone qui est nouvelle génération, qui a été fendue en 4 parties pour un maximum de retour d'énergie. On est venu y intégrer un strap médio-pied pour apporter du maintien. Et il y a un speed roll qui est une technologie propre à Saucony qui va apporter une propulsion maximale. Donc tout ça mélangé fait effectivement qu'on est sur un produit qui est à 300 euros et qui est vraiment destiné à la compétition.
Ouais. Michel, tu vas faire un bout de la tournée ou pas? T'as réservé ta place dans le van ? Ouais, c'est bon ?
C'est bon, je serai avec mon équipe.
Je précise que les grandes villes seront visitées. Hein. Je vois Marseille dans la semaine du 20 mars, je vois Lyon dans la semaine du 27, je vois Nice également la même semaine. Il y a des semaines qui font envie, hein. Franchement. La Ciotat, Sanary-sur-Mer, tout ça. Valence, Albertville, ça peut être sympa, pourquoi pas. Et ça termine à Paris d'ailleurs, la tournée le 19 avril.
Exactement.
Bon, parfait.
Fini à Paris.
Merci Michel d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. À bientôt.
Et je précise que vous avez la gentillesse de nous faire gagner un modèle d'ailleurs, un modèle de l'Endorphin Speed. Voilà, donc c'est très gentil. Peu importe la pointure, allez tenter votre chance. Évidemment, même système que les semaines précédentes pour les bons plans matos ou les bons plans dossard. Vous allez sur nos réseaux sociaux, Strava ou Instagram, vous laissez votre mail et votre pointure en commentaire et nous, on effectuera un tirage au sort et puis le regagnant sera contacté. Merci encore Michel.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Et avant de dire au revoir à Félix, on vous l'a dit, on vous l'a promis, nouveauté dans RMC Running cette semaine.
Qu'est-ce que c'est ?
On va développer l'esprit de communauté, voilà. RMC Running, nous, de plus en plus de partenariats, vous l'avez compris, pour permettre de bénéficier de bons plans. Et désormais, vous pouvez même nous interpeller directement, un nouveau rendez-vous dans le podcast qu'on a tout simplement intitulé le « 10 mois Yodu ». Voilà, ça s'appelle le 10 mois Yodu. En fait, c'est d'accord. Très simple. Si vous êtes auditeur d'RMC, vous avez le réflexe. Il vous suffit en fait d'appeler le 3216. C'est le numéro de notre standard ARMC, numéro historique d'RMC. Lorsque vous appelez le 3216, vous appuyez sur la touche 0 et vous laissez un message en démarrant par cette phrase. 10 mois Yodu. Et alors là, vous pouvez vous faire plaisir. Et chaque semaine, avec Johan, on prendra le temps de répondre à vos questions. Si vous voulez affiner un sujet qu'on a abordé une semaine précédente, si vous avez une réflexion sur le podcast, si vous avez une question qui n'a rien à voir, mais que vous avez envie d'avoir les conseils d'un pro comme Johan Durand, vous n'hésitez pas. Donc, je vous rappelle, vous composez le 3216 sur votre téléphone, vous appuyez sur la touche 0 et vous démarrez votre phrase par le 10 mois Yodu. Comme ça, ça renforce l'esprit de communauté.
Ça va péter le standard, là,
entre vous et nous, voilà. Mais c'est sympa, ça, tu vois, les gens pourront s'adresser directement à toi. Voilà, c'est cool.
Bon. Carrément.
T'as eu peur d'avoir plus de travail, hein, mon petit Yodu, je t'ai senti, là. Il s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont faire
encore. Non, je me demandais, ouais.
Bon, et ben voilà. Donc, allez-y, c'est disponible. 3216, touche 0, 10 mois Yodu. On remercie Félix Bourg d'avoir été avec nous. Merci Félix, hein, tu files à l'entraînement, donc c'était un régal de passer ce petit moment avec toi. Et puis tu sais, Félix, on a cette tradition dans RMC Running, on te demande la musique que tu écoutes quand tu cours. Habituellement, on nous dit, ouais, j'écoute pas de musique et tout, mais toi, t'es un vrai fan de Booba. Donc tu nous as choisi Double Poney, ça donne ça. Là on est quoi? On est sur un échauffement? On est sur quoi Félix?
La musique. Là on est à bord le
sur, on est sur la musique que tu mets dans ta voiture quand tu pars.
Ah, voilà, là il est dans la rue principale de Bar-le-Duc, vitre teintée.
Ouais. Exactement, dans le brouillard, tout ça quoi.
Voilà. Bah écoute, en plus là j'ai une bonne séance piste qui m'attend, du coup je vais me la mettre sur le trajet.
Excellent. Voilà. Et bah, bon courage à toi. Merci Félix Bourg d'avoir été avec nous, évidemment.
Bah, merci à vous.
Et puis,
allez, à bientôt.
On te dit à bientôt. Et puis merci également au coach Yodu avec toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Seul un peu d'oseille pourrait me rapatrier. Bien sûr, je continue le son pour faire du halal billet.